Allez, on va accueillir comme il se doit notre invité du jour et je ne vais pas manquer là. J'aurais omis de vous saluer la dernière fois, Michel. Donc bonjour Michel. Voilà, c'est vrai que des fois on est pris par le flux. Alors juste Michel, alors je disais, vous avez été le premier invité et vous allez être le dernier invité. Voilà, comme ça la boucle sera bouclée. Alors Constellations des Galaxies, alors c'était évidemment la chronique numéro 50 le 2 janvier, la 62. Donc redites-nous quelques mots sur Constellations des Galaxies et .org, hein, le site et l'association et surtout ben, le fait qu'on peut retrouver toutes les chroniques hiérarchisées. Donc, en quelques mots, avant de présenter votre chronique du jour, bien sûr.
Comme je le dis à chaque fois, c'est une petite association par le nombre de membres. Sa vocation, c'est la diffusion de la connaissance scientifique, de la culture scientifique, et surtout dans le domaine de l'astronomie et de l'astronautique. Et l'un des produits phares, si je peux dire, de l'association, c'est les séances de planétarium, avec un planétarium itinérant qui peut se rendre donc dans les écoles, les collèges, les lycées, souvent pendant la période scolaire, parfois des médiathèques. En période de vacances ou là en janvier pour une opération spéciale, je crois que c'est la nuit de la lecture. On trouve toutes les informations sur le site, la place qu'il faut pour l'installer, etc. Et bien sûr, il y a un volet aussi astronomie dans le site où se trouvent des cartes du ciel. Je vais parler à la fin de la chronique du ciel du mois, donc à chaque fois on trouve les cartes pour mieux se repérer dans le ciel. Et dans cette rubrique astronomie, il y a aussi la compilation de toutes les chroniques depuis le début, c'est-à-dire qu'on en a déjà 61 en ligne, et la 62e bientôt, avec une liste où on trouve quels sont les thèmes qui sont abordés dans chaque chronique, parce que c'est peut-être un peu fastidieux de tout écouter, mais suivant les sujets qui intéressent les visiteurs du site, on peut choisir d'écouter telle ou telle chronique.
Allez, dans quelques instants, on vous retrouve, Michel.
La Terre, elle brille, en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Dans l'ambiance, allez, c'est parti pour votre chronique numéro 62. Michel, alors pour commencer, vous allez nous parler de l'actu et encore raté pour les fusées américaines.
Oui, la dernière fois, j'avais parlé des déboires de SpaceX, la société spatiale privée dirigée par Elon Musk. Avec l'explosion de son vaisseau Starship lors d'un test de mise en pression de ses réservoirs le 20 novembre dernier. Et j'avais rappelé aussi l'explosion qui avait détruit la capsule habitable Crew Dragon pendant un test moteur au sol le 20 avril, après avoir réussi un vol aller-retour non habité jusqu'à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, du 2 au 8 mars. Cette fois-ci, les difficultés concernent son principal concurrent, Boeing, qui a raté en décembre le même test d'un vol jusqu'à l'ISS de sa capsule habitable CST-100 Starliner. CST signifie Crew Space Transportation, c'est-à-dire le transport spatial d'équipage, dont l'objectif est notamment de pouvoir envoyer des astronautes vers l'ISS, ce que seuls les Soyouz russes sont encore en mesure de réaliser actuellement. Et le nombre 100 hein, du sigle figure la limite théorique de l'espace qui commence conventionnellement à 100 km d'altitude. Cette capsule est conçue pour transporter 4 astronautes, mais on peut la configurer pour un équipage de 7 au maximum. Elle est prévue pour rejoindre l'ISS en seulement 8 heures, est réutilisable une dizaine de fois, car atterrit en douceur, ralentie par des parachutes, puis amortie par des coussins gonflables avant de toucher le sol. Après avoir été repoussée de multiples fois pour des retards de mise au point, car il était initialement programmé en octobre 2017, donc c'est donc avec 2 ans de retard, le vendredi 20 décembre, que s'est déroulé son premier test non habité. Le lancement par une fusée Atlas V avait réussi quand la capsule CST-100 a dévié de son comportement prévu. D'après l'analyse des données, son horloge interne s'était décalée et elle a commencé bien trop tôt les manœuvres d'insertion en orbite, consommant trop de carburant. Il a donc fallu renoncer au rendez-vous avec l'ISS et programmer un retour anticipé pour le 22 décembre au lieu des 8 jours qu'elle devait passer dans l'espace arrimée à l'ISS. Cette série d'échecs des deux compétiteurs SpaceX et Boeing pour l'envoi d'astronautes vers l'ISS prive la NASA d'une solution américaine pour ses vols et l'oblige à poursuivre une coopération coûteuse avec la Russie pour pouvoir utiliser le lanceur Soyouz.
Mais succès néanmoins pour l'astronautique chinoise, Michel.
Voilà. Une semaine après, tout juste, le vendredi dernier, 27 décembre, l'agence spatiale chinoise a réussi le lancement d'une fusée Longue Marche 5, l'un des lanceurs les plus puissants actuellement, équivalent à l'européenne Ariane 5. C'était le troisième essai de ce nouveau lanceur, le premier ayant déjà été un succès le 3 novembre 2016, mais le second, le 2 juillet 2017, s'était soldé par un échec, ne permettant pas la mise en orbite correcte du satellite de communication qu'elle transportait suite à une défaillance de propulsion. Le vol du 27 décembre transportait également un satellite de communication de 7,5 tonnes. Cette fusée est prévue pour mettre en orbite des éléments de la prochaine station spatiale chinoise, Tiangong 3, de 66 tonnes dans sa configuration finale, en remplacement des prototypes précédents, Tiangong 1 de 8,5 tonnes mis en orbite en 2011, remplacé en 2016 par Tiangong 2 de 13 tonnes. Elle doit aussi jouer un rôle important dans le lancement des sondes spatiales chinoises, parmi lesquelles la mission martienne Yuxing 1, dont j'ai parlé le mois dernier, suite à l'essai réussi de son atterrisseur le 14 novembre, et qui doit être lancée par une fusée Longue Marche 5 le 23 juillet. Et aussi la prochaine mission lunaire Chang'e 5, prévue fin 2020, qui devrait rapporter sur Terre des échantillons de sol lunaire.
Et l'Europe qui envoie Khéops dans l'espace.
Oui, alors bien entendu, il ne s'agit pas de la momie du pharaon égyptien de l'ancien empire, célèbre pour avoir fait construire la fameuse grande pyramide de Gizeh, ni de la seule statue de lui qu'on possède et qui ne mesure que 7,5 cm de haut, visible au musée égyptien du Caire. Comme souvent en astronautique, et nos auditeurs doivent commencer à en être familiers, Khéops est un acronyme désignant une mission spatiale et qui signifie Characterizing Exoplanet Satellite, c'est-à-dire un satellite de caractérisation des exoplanètes. C'est donc un petit télescope spatial de seulement 32 cm de diamètre, destiné à mieux connaître des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes orbitant autour d'autres étoiles que notre Soleil. Pesant seulement 273 kg, il a été lancé avec d'autres satellites, dont un satellite italien d'observation radar de la Terre de plus de 2 tonnes, le 18 décembre, par une fusée Soyouz tirée depuis la base de Kourou en Guyane. Il a été placé avec succès sur son orbite à environ 700 km d'altitude, orbite qui a la particularité d'être héliosynchrone crépusculaire, c'est-à-dire que le satellite est soumis toujours au même éclairage par le Soleil, ce qui simplifie les problèmes d'alimentation électrique par panneaux solaires et d'échange thermique. Dans le domaine de l'étude des exoplanètes, cette mission de l'ESA, Agence spatiale européenne, est la quatrième à être envoyée dans l'espace après COROE, déjà de l'ESA en 2006, qui a découvert 36 exoplanètes, mais cela n'était pas son seul objectif scientifique. Puis le satellite Kepler de la NASA, spécialement conçu pour ces détections, et qui en a découvert 2318, très précisément. Et enfin, TESS de la NASA, lancé en 2018, qui en a découvert officiellement seulement 21, mais 850 détections par TESS restent à confirmer par des observations complémentaires.
Et Khéops va aussi chercher des exoplanètes.
Eh bien non, contrairement à ces trois satellites destinés à découvrir de nouvelles exoplanètes, Khéops vise à mieux caractériser des exoplanètes déjà détectées, orbitant autour d'étoiles assez brillantes, d'une magnitude inférieure à 12, donc en général relativement proches, si l'on peut dire, de notre système solaire. N'ayant pas à scruter des milliers d'étoiles en attendant de détecter un éventuel transit, c'est-à-dire le passage d'une planète devant l'étoile, ce qui fait légèrement baisser sa luminosité, mais au contraire se braquant directement sur la bonne étoile au moment où l'on sait que le transit va se produire, Khéops peut réaliser des mesures bien plus précises sur des petites planètes, c'est-à-dire des tailles allant de celle de la Terre à environ 5 fois plus grosse, c'est-à-dire à peu près la taille de Neptune. Cela lui permettra d'affiner la connaissance de leur diamètre avec une précision de 5% pour les petites exoplanètes comparables à la Terre, de leur période de révolution et de leur masse. Avec la très grande précision des mesures, environ 1/100 millième de baisse de luminosité de l'étoile, on espère même pouvoir détecter la présence de satellites ou d'anneaux autour de certaines d'entre elles, et même de mieux caractériser leur atmosphère pour celles qui en ont. Cette mission prépare les futures observations de ces exoplanètes les plus intéressantes par la nouvelle génération de grands télescopes au sol, comme l'ILT, Extremely Large Telescope de l'ESO, de 39 mètres de diamètre, en cours de construction au Chili, où il devrait être mis en service en 2024, ou dans l'espace avec le JWST, James Webb Space Telescope, le successeur de Hubble, mais avec un miroir presque trois fois plus gros, qui doit être lancé par la NASA en 2021. Ces énormes télescopes pourront aller beaucoup plus loin dans l'étude de ces exoplanètes et notamment de leur atmosphère, toujours dans le but de déterminer si une vie peut exister à leur surface. Et KEOPS aura préparé le terrain en déterminant lesquelles doivent être examinées de plus près en priorité.
Et des exoplanètes auxquelles on peut donner un nom ?
Alors en effet, les exoplanètes découvertes jusqu'à présent portent des numéros barbares, provenant parfois du numéro que porte leur étoile dans un catalogue, comme par exemple HD 189-733b, c'est-à-dire la première exoplanète détectée autour de l'étoile portant le numéro 189-733 dans le catalogue HD, c'est-à-dire Henry Draper, nommé en hommage à cet astronome américain dont la veuve a fait financer la publication du catalogue dans les années 1920 et qui contient plus de 225 000 étoiles. J'ai pris cet exemple particulier car HD 189-733b est l'une des très rares exoplanètes détectables avec des moyens d'amateurs, comme j'ai pu le faire à deux reprises avec mon petit télescope de 20 cm et un appareil photo numérique. Dans d'autres cas, le sigle désignant l'exoplanète contient le nom du télescope qui l'a détecté, comme Kepler-69c, une planète ayant une taille proche de celle de la Terre, ce qui signifie, le Kepler-69c, qu'elle a été découverte par le télescope spatial Kepler autour de la 69e étoile où il a détecté des exoplanètes, mais que c'était la seconde, car la première est toujours désignée par la lettre B, et ensuite C, D, F, etc. Mais on en a peut-être bientôt fini avec ces noms compliqués, car l'Union Astronomique Internationale, UAI, avait lancé l'opération « Nommer une exoplanète », visant à donner de vrais noms aux exoplanètes et à leurs étoiles, noms tirés de mythologies de différentes cultures, en faisant participer la population de 112 pays pour les choisir. Pour la France, une première consultation achevée le 12 octobre dernier visait à sélectionner des coupes de noms compatibles avec les critères définis par l'UAI. Et sur les 8 retenues, le public pouvait voter jusqu'au 14 novembre. Les choix ont été révélés le 17 décembre au cours d'une réunion de l'UAI à l'Observatoire de Paris. La France devait nommer l'exoplanète HD 8574b, une géante découverte en 2001 autour d'une étoile située à 144 années-lumière de la Terre. Et le résultat du vote est Belenos, le dieu gaulois de la lumière, du soleil, de la santé pour l'étoile. Et pour la planète, Belisama, déesse du foyer, de la métallurgie, des arts, du verre et du tissage. Ces noms seront désormais utilisés en parallèle de la nomenclature habituelle et seront crédités aux personnes qui les ont proposés au premier. On peut trouver la liste complète de cette première série de noms d'exoplanètes et d'étoiles sur le site anglais, en anglais. Alors bon, je vais le donner, mais je pense qu'on le retrouvera sur les pages publiées par O2 Radio. Donc c'est www.nameexoworlds, nommé des mondes exotiques, enfin exosolaires, .iau, c'est en anglais l'Union Internationale Astronomique, .org/final-results, résultat final en anglais. On y trouvera par exemple France et Sissi pour l'Autriche, Citadelle et Indépendance pour Haïti, Unor et Magor pour la Hongrie, Uruk et Babylone pour l'Irak, Solaris et Pirx pour la Pologne. Il est possible que de nouvelles campagnes soient organisées car il reste plus de 4000 exoplanètes à nommer.
Allez, deuxième partie de votre chronique avec le sujet et le thème du mois, les exoplanètes.
Alors, en raison de ces actualités sur le lancement de KEOPS et le baptême d'une centaine d'exoplanètes, j'ai décidé de reprendre ce thème que nous évoquons assez régulièrement dans nos chroniques, mais que nous n'avons pas traité comme thème depuis 2 ans à peu près. Il faut imaginer le bond considérable réalisé dans la connaissance de cette facette de l'univers passant en une trentaine d'années des 8 planètes du système solaire et la question en suspens de l'existence ou non de planètes autour des autres étoiles à aujourd'hui avec 4160 planètes connues autour des étoiles où nous avons essayé de les détecter, ce qui, en extrapolant à toute notre galaxie la Voie lactée avec ses 200 milliards d'étoiles, permet d'estimer statistiquement qu'il y aurait probablement dans les 1000 milliards de planètes autour de nous. Je rappelle que par définition, une exoplanète, ou parfois nommée aussi planète extrasolaire, est tout simplement une planète qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. On s'est longtemps posé la question de l'existence de ces planètes, mais il était impossible aux astronomes de la résoudre, car ils ne pouvaient pas les observer directement en raison de la différence de luminosité qui est trop énorme entre une étoile et une planète. Par exemple, Vénus, qui est la plus brillante des planètes visibles dans le ciel, est environ 500 000 fois moins brillante que le Soleil vue de la Terre, ce qui est tout proche. Pour les étoiles qui sont tellement loin de nous, c'est pratiquement impossible, car l'écart entre les deux astres est aussi très petit. Et même si cette image était encore très en dessous de la réalité, ce serait comme vouloir distinguer la petite flamme d'une bougie placée à côté d'une lampe surpuissante d'un phare marin de l'autre côté de l'océan Atlantique. On n'a donc pas pu voir ces exoplanètes, mais on a pu détecter leur présence en étudiant les étoiles autour desquelles elles orbitent. En effet, les améliorations techniques dans les années 1990 ont permis de penser qu'on serait en mesure de les détecter de manière indirecte par la méthode dite de la vitesse radiale, c'est-à-dire en mesurant le mouvement radial de l'étoile par rapport à la Terre. Une étoile est tellement énorme par rapport aux planètes qui l'entourent qu'on imagine souvent comme un point fixe autour duquel orbitent les planètes. Mais en réalité, le balai des planètes fait un peu bouger l'étoile, surtout les plus grosses comme Jupiter pour le Soleil, par exemple. Pour le comprendre, on peut prendre l'image du patineur qui fait tourner sa partenaire autour de lui. S'il ne s'inclinait pas en arrière pour compenser, il ne pourrait pas rester en équilibre. Du coup, pour un spectateur l'observant des gradins, sa rotation le fait alternativement s'approcher puis s'éloigner. Et ce mouvement des étoiles est détectable en raison de l'effet Doppler. Cet effet qui fait paraître le son de la sirène d'une ambulance ou du moteur d'un véhicule, plus aigu lorsqu'il s'approche de nous et plus grave quand il s'éloigne. D'ailleurs, on a un son. On peut le repasser parce qu'il dure 5 secondes. Voilà. En décomposant la lumière des étoiles sous forme de spectre, on peut détecter ce genre d'oscillation qui indique la présence d'une planète, souvent une grosse planète, car lorsque l'étoile se déplace vers nous, sa lumière est décalée vers le bleu et vers le rouge quand elle s'éloigne. L'idée était donc d'observer des étoiles assez semblables au Soleil, puisqu'on sait qu'il a des planètes, pendant des semaines ou des mois afin de détecter de telles oscillations.
Est-ce que cela a donné des résultats ?
Oui, car c'est ainsi que le 6 octobre 1995, avec le télescope de 2 mètres de l'Observatoire de Haute-Provence en France, hein, Cocorico, une équipe suisse de l'Observatoire de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, ont détecté la toute première exoplanète autour de l'étoile numéro 51 de la constellation de Pégase, donc 51 Pégasi B, qui a été nommée donc en décembre Dimidium, par l'UAI, en raison de sa taille, la moitié de Jupiter, et Dimidium, il paraît qu'en latin, ça veut dire la moitié, ou demi, et Helvetius, pour l'étoile, en hommage à la nationalité des deux découvreurs. Ils ont d'ailleurs été récompensés du prix Nobel de physique cette année pour cette découverte. Il faut savoir qu'une recherche similaire était menée en parallèle par une équipe américaine, mais qui n'a pas réussi cette première détection, tout simplement parce qu'elle était trop restrictive dans ses analyses. En effet, comme on ne pouvait détecter que de très grosses planètes comme Jupiter, elle recherchait des variations de spectre avec des périodes longues de plusieurs mois, car Jupiter met plus de 12 ans à effectuer sa révolution autour du Soleil, et on pensait que si d'autres systèmes planétaires existaient, les géantes détectables devaient se trouver loin de leur étoile, comme Jupiter ou Saturne dans le système solaire. Or, la planète détectée à l'OHP est totalement surprenante. Elle est très grosse, environ la moitié de Jupiter, mais elle effectue sa révolution en seulement 4 jours. Elle est donc très proche de son étoile et on a qualifié depuis ce type d'objet de Jupiter chaude, car porté à des températures extrêmes sur la face exposée au rayonnement de l'étoile et perdant dans l'espace en permanence une partie de son atmosphère, un peu comme la queue d'une énorme comète. Cette méthode de la vitesse radiale a permis de détecter à ce jour 876 exoplanètes, soit environ un cinquième du total.
Alors les autres ont donc été découvertes en employant d'autres méthodes ?
Oui, et parmi les autres méthodes de détection utilisables, il en est une qui a permis d'en découvrir la plupart, 2977 pour être précis, soit presque les trois quarts, notamment avec les télescopes spatiaux comme Kepler de la NASA ou Corot de l'ESA. C'est la méthode des transits qui consiste à mesurer la lumière qui nous provient des étoiles et quand le petit disque noir de la planète vient s'interposer devant, un peu comme une mini-éclipse, ce qui n'arrive que dans quelques pourcents des systèmes planétaires bien orientés par rapport à la Terre, on constate une petite baisse de luminosité, avec une courbe en U si on trace l'évolution de la luminosité au fil du temps. Connaissant les caractéristiques de l'étoile données par l'analyse de sa lumière, c'est-à-dire sa température, sa masse et donc sa taille, cette courbe nous fournit beaucoup d'informations sur la planète. La profondeur du U donne la taille, car plus une planète est grosse, plus elle masquera de lumière de l'étoile. Par exemple, pour des extraterrestres très loin de nous, le passage de Jupiter réduirait la luminosité du Soleil de 1%, alors que la Terre de 0,01%, c'est-à-dire un dix millième seulement. La largeur du U nous donne le temps qu'il a fallu à la planète pour traverser tout le diamètre de l'étoile, donc donne une idée de sa vitesse, ce qui, avec les lois de Newton et de Kepler, permet de calculer à quelle distance elle se situe de l'étoile. Et comme je l'ai évoqué à propos de Khéops, des mesures très précises de la luminosité permettent d'affiner cette courbe en U et d'en déduire la présence d'une atmosphère, si l'affaiblissement est plus progressif, ou l'existence de satellites ou d'anneaux, si une sorte de sursaut existe dans la courbe, traduisant la présence d'un autre corps que la seule planète. Si on fait une petite analyse de la population d'exoplanètes actuellement connues, environ 650, soit environ un sixième, sont de type terrestre, c'est-à-dire ayant un diamètre inférieur à une fois et demie celui de la Terre. On distingue ensuite la catégorie des super-Terres, ayant entre une fois et demie et deux fois le diamètre de la Terre, en nombre à peu près analogue, dans les 580. On classe ensuite comme Neptune, celle ayant entre deux fois et six fois le diamètre terrestre, et qui sont 1200. Les Jupiter ayant entre 6 fois et 15 fois la taille de notre planète sont 530. Et enfin, les gros Jupiter ayant plus de 15 fois le diamètre de la Terre sont dans les 170. On constate donc que beaucoup des exoplanètes détectées à ce jour sont plutôt grosses, car environ la moitié font plus de 2 fois le diamètre de la Terre, donc ressembleraient plus aux géantes gazeuses de notre système solaire comme Uranus et Neptune, 4 fois le diamètre de la Terre, ou les plus grosses comme Saturne et Jupiter dans les 10 fois la Terre. Alors, je suis toujours gêné par ces histoires de diamètre parce qu'on ne se représente pas ce que ça représente en réalité, qu'il faut imaginer en volume. Une planète 10 fois le diamètre de la Terre, comme Jupiter, c'est 1000 fois le volume de la Terre. C'est donc vraiment beaucoup, beaucoup plus gros que la Terre. Alors, le fait qu'on ait détecté beaucoup de grosses planètes s'explique simplement parce que les méthodes employées et la sensibilité de nos instruments rendent la détection des petites planètes plus difficile. Par ailleurs, on connaît des systèmes comprenant plusieurs planètes orbitant autour de la même étoile, dont plus de 200 ayant au moins 3 planètes, le record étant détenu actuellement par Kepler-90, la seule possédant 8 planètes comme notre système solaire, dont 3 de taille terrestre, 3 Neptune et 2 géantes comme Jupiter.
Mais Michel, est-ce que ces planètes sont habitables ?
Alors c'est très difficile à savoir, mais on peut déjà dire celles qui ne le sont probablement pas. En effet, la vie comme nous la connaissons sur Terre ne pourrait pas survivre à l'énorme gravité des planètes géantes comme Jupiter, ni aux très fortes pressions qui règnent dans leur atmosphère. Or, comme nous venons de le voir, une grande part des exoplanètes découvertes à ce jour sont des géantes. La vie s'accommoderait plus de la surface de petites planètes telluriques, c'est-à-dire rocheuses comme la Terre ou Vénus, mais pas trop petites non plus comme Mercure ou Mars, car sinon leur faible gravité ne leur permet pas de conserver leur atmosphère. Élément très important, car elle régule la température à la surface et sa pression permet éventuellement l'existence d'eau liquide, donc d'océans, où on pense que la vie a démarré sur Terre. Parmi les exoplanètes découvertes à ce jour, on a vu qu'il n'y en a que dans les 650 qui sont d'une taille similaire à celle de la Terre, mais il ne faut pas oublier que notre connaissance ne porte que sur un très petit échantillon si l'on considère la présence probable de centaines de milliards de planètes dans notre galaxie. Et enfin, il y a un dernier critère important qui est la distance à l'étoile. Il est facile de comprendre que si la planète est trop proche, il y fait trop chaud et il ne peut y avoir que de la vapeur d'eau. Et à l'inverse, si elle est trop loin, il fait trop froid et il ne peut y avoir que de la glace. Or, l'eau liquide est indispensable aux organismes vivants sur la Terre. Ces deux distances limites dépendent bien sûr de la puissance de l'étoile et sont donc différentes d'une étoile à l'autre. La zone située entre les deux, où pourrait potentiellement exister de l'eau liquide à la surface d'une planète, s'appelle la zone d'habitabilité. Et c'est par facilité de langage qu'on parle parfois de planètes habitables, notamment dans les médias. Actuellement, on connaît environ 50 planètes telluriques, donc comme la Terre, situées dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Pour le moment, on ne sait souvent rien dire de plus à leur sujet. Elles sont d'une taille convenable et à la bonne distance de leur étoile pour pouvoir posséder de l'eau liquide à leur surface. Mais ça n'est pas certain. Par exemple, dans le système solaire, 3 planètes telluriques sont dans la zone d'habitabilité, Vénus, la Terre et Mars. Et seule la Terre possède un océan à sa surface. Il faut donc continuer d'étudier ces exoplanètes pour en savoir plus, et notamment avec les très grands télescopes qui seront mis en service dans les prochaines années, comme je rappelle, le télescope spatial JWST de 6,50 m que la NASA doit lancer en 2021, ou l'ILT de 39 mètres que l'ESO devrait mettre en service au Chili en 2024. Avec ces très grands télescopes, donc recueillant une très grande quantité de lumière des étoiles visées, il devrait être possible de distinguer la toute petite différence entre le spectre de la lumière de l'étoile seule ou légèrement modifiée par la petite portion de cette lumière qui traverse l'atmosphère de l'exoplanète, si elle en a une, lors du transit. Et bien sûr, on cherchera d'abord à vérifier si cette atmosphère contient de l'eau, mais aussi de l'oxygène, car sur Terre, il a été produit par des organismes vivants, et certains rêvent même qu'on pourrait un jour détecter de la chlorophylle, signe certain de la présence de végétaux, donc de vie. Même si la quête de la vie dans l'univers risque de prendre encore de nombreuses années, si l'on est un peu optimiste en pensant qu'elle a pu apparaître quand les conditions favorables sont réunies, comme sur la Terre, on peut se dire que dans les 1000 milliards de planètes peuplant probablement notre Voie lactée, ce ne sont pas quelques jumelles de la Terre qui existent, ni quelques dizaines, mais sans doute des dizaines de millions.
Allez, troisième partie de votre chronique, Michel, le ciel du mois et de l'année 2020.
Voilà, comme nous sommes sur le point d'entrer dans l'année 2020, je pense utile d'indiquer quels seront les grands rendez-vous astronomiques des 12 prochains mois. Mais avant, je vais rapidement évoquer le ciel du mois de janvier, en renvoyant plutôt les auditeurs, comme d'habitude, vers la rubrique « Ciel du mois » de la section « Astronomie » de notre site web, www.constellationsetgalaxies.org, pour voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. Maintenant que nous avons passé le solstice d'hiver du 22 décembre, les jours ont commencé à rallonger et la nuit vient un peu plus tard. En ce moment, le soleil se couche un peu avant 17h30 et la nuit noire arrive peu après 18h30. À la fin janvier, le coucher sera vers 18h et la nuit un peu après 19h. Comme nous sommes à peine entrés dans l'hiver, en tout début de nuit, ce sont encore les constellations du ciel de l'automne qui occupent la plus grande partie sud du ciel, avec notamment Pégase et Andromède. À noter que l'étoile 51 Pégasi, où l'on a détecté la première exoplanète en 1995, est visible à l'œil nu et facile à trouver près du grand carré de Pégase. Elle est indiquée sur la carte du ciel visible sur notre site. Les constellations typiques de l'hiver sont encore en train de se lever vers l'est en début de nuit, notamment la fameuse Orion, seulement partiellement visible, précédée du Taureau et des Pléiades. C'est seulement à partir de 22h30 que l'ensemble des constellations de l'hiver occupe toute la moitié est du ciel et qu'on peut repérer le grand jet de l'hiver, une figure formée par les étoiles les plus brillantes autour d'Orion et se terminant par ses épaules, Bételgeuse et Bellatrix. Cette figure permettant de parcourir, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toutes les constellations de l'hiver, le taureau, le cocher, les gémeaux, le petit et le grand chien et Orion au centre. Fin janvier, cette configuration sera dans le ciel dès 20h30. Côté planète, il ne reste plus que Vénus, brillante comme un phare dès le crépuscule, et visible jusque vers 20h, 21h30 fin janvier. Le matin, c'est Mars qu'on peut voir, encore assez peu brillante, pas plus qu'une étoile très brillante, mais bien reconnaissable à sa couleur orangée. En ce moment, il se lève vers 5h30, mais ce sera dès 5h à la fin janvier. Comme les planètes visibles sont peu nombreuses, il y a peu de conjonctions avec la Lune. Les matins des 20 et 21 janvier, on pourra voir un croissant alternativement au-dessus puis en dessous de Mars, séparé d'à peu près la largeur de 3 doigts bras tendus. Puis le mardi 28, on verra dès le crépuscule le fin croissant de Lune proche de la très brillante Vénus. Mais la Lune nous réserve une autre surprise en ce mois de janvier, inaugurant la série des événements astronomiques majeurs de l'année 2020. Le 10 janvier, on pourra voir la pleine Lune pâlir progressivement avec un maximum, ou plutôt un minimum, je devrais dire, vers 20h10. Il s'agit d'une éclipse, mais seulement par la pénombre. C'est-à-dire que la Lune pénétrera dans la zone où la Terre lui cache partiellement le Soleil, d'où sa baisse de luminosité, mais ne passera pas dans l'ombre de la Terre, qui la masque partiellement ou totalement lors des éclipses plus prononcées. Comme toujours, les éclipses de Lune et de Soleil se suivent à 2 semaines d'écart et celle-ci n'échappe pas à la règle car il y avait une éclipse annulaire de Soleil le 26 décembre dernier, mais visible uniquement en Inde et dans les îles du sud-est asiatique. En 2020, nous aurons 2 autres éclipses de Soleil. Une annulaire, c'est-à-dire que la Lune, trop éloignée de la Terre, ne masque pas entièrement le Soleil et laisse visible un anneau de lumière autour d'elle, le 21 juin. Visible en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, en Inde et en Chine. En Europe, il sera possible de voir une éclipse partielle, mais pas en France, seulement dans des pays plus à l'Est, comme l'Italie ou la Grèce. La seconde sera une éclipse totale le 14 décembre, visible au Chili et en Argentine. Elles sont mécaniquement accompagnées à 2 semaines d'écart par des éclipses de Lune, un doublé les 5 juin et 5 juillet pour la première, puis le 30 novembre pour la deuxième. Malheureusement, ce seront toutes des éclipses par la pénombre, comme celle du 10 janvier, donc pas très spectaculaires, se traduisant juste par une baisse de luminosité. De France, nous ne pourrons observer que les deux de l'été, dès le lever de lune pour celle du 5 juin et pendant son coucher pour celle du 5 juillet. 2020 aura aussi la particularité d'être une année bissextile, donc avec un jour de plus qu'une année ordinaire, le mois de février étant allongé d'un 29e jour. Cette disposition permet de maintenir la cohérence du calendrier avec la révolution de la Terre autour du Soleil, alors que celle-ci ne s'effectue pas en un nombre entier de jours, environ 365 jours et 6 heures. Ce petit supplément de 6 heures est pris en compte en ajoutant un jour, soit 24 heures, tous les 4 ans, donc les années multiples de 4, comme 2020. Mais 2020 sera surtout une année martienne, si je peux dire, car comme tous les 2 ans environ, il y aura une opposition de Mars le 13 octobre. C'est-à-dire que la Terre, qui se déplace plus vite sur son orbite, double Mars en passant entre elle et le Soleil. Le jour de l'opposition, les deux astres sont opposés dans le ciel, d'où le nom d'opposition, et Mars se lève pendant que le Soleil se couche. Comme c'est aussi la période où nous sommes les plus proches, environ 60 millions de kilomètres quand même, c'est là que Mars apparaît la plus brillante dans le ciel et la plus grosse dans les télescopes. Une bonne occasion de l'observer, et si l'on est matinal, on peut commencer dès maintenant pour apprécier au fil des mois son éclat de plus en plus fort. Pour profiter de cette distance minimum entre les planètes, c'est aussi l'occasion d'envoyer les sondes martiennes. Elles devraient être lancées en été, environ 3 mois avant l'opposition, pour arriver environ 6 mois plus tard, au début de 2021. Il y en a 3 de prévues, la chinoise Huoxing 1, dont j'ai un peu parlé au début de la chronique, inspirée des sondes lunaires Chang'e et de le rover U2, un nouveau rover américain baptisé Mars 2020, inspiré de Curiosity, mais destiné à prélever des échantillons qu'une future mission rapporterait ultérieurement sur Terre, et enfin l'européenne ExoMars, qui doit déposer un rover capable de forer jusqu'à 2 mètres de profondeur et d'analyser les échantillons recueillis. On espère qu'elle s'en sortira mieux que la première mission ExoMars de 2016, dont l'atterrisseur Schiaparelli s'était écrasé à la surface martienne. On voit donc que le calendrier astronomique et astronautique sera riche en 2020, sans compter que l'espace nous surprendra peut-être avec des événements inattendus, comme le passage d'une belle comète brillante visible à l'œil nu. On peut toujours espérer. Et pour clore cette dernière chronique de l'année, même si c'est avec quelques heures d'avance, je souhaite à nos auditeurs une bonne et heureuse année 2020 et, comme on le dit entre astronomes, un bon ciel. En principe, nous devrions nous retrouver le dernier mercredi de janvier, soit le 29.
Voilà, donc rendez-vous le 29 janvier prochain. Merci Michel, bien sûr, pour tout ce beau travail. Alors, on va pas se quitter comme ça, on va se replonger dans l'univers du générique. Mais rappelez-nous, constellationsetgalaxies.org, ça nous permet d'avoir toutes les chroniques hiérarchisées et puis les infos de l'actualité. Hein. Donc, si on est féru d'astronomie, voilà, faut pas hésiter à aller jeter un petit œil, voir les deux.
Hein. Dans la partie astronomie, en dehors des chroniques d'eau de radio qui effectivement nous concernent pas mal, il y a aussi le ciel du mois. Donc pour le moment, c'est encore décembre qui est en ligne. Dans les jours qui viennent, je mettrai en ligne janvier, ce qui permet d'avoir les cartes. C'est quand même plus simple que d'imaginer les cartes à la radio. Hein, c'est pas facile. Et surtout, il y a plus d'infos. Hein. Là, je mets que les infos principales. Lorsque je parle à nos auditeurs, il y a des autres petites choses. La partie planétarium, qui permet de savoir un peu comment ça se passe avec le planétarium, les tarifs, hein, parce que malheureusement, ce n'est pas gratuit, on n'a pas suffisamment de subventions pour réduire les frais à ce point-là. Il y a aussi une partie concernant des ateliers qu'on propose, et en particulier un atelier qui est un petit peu en dehors de l'astronomie, qui est un atelier de robotique, qui correspondait à un appel à projet l'année dernière de la région Aquitaine. Un atelier de programmation de petits robots qu'on construit à partir de briques Lego. Voilà. Après, il y a toujours quelques infos supplémentaires, des liens vers des sites web d'astronomie que je trouve intéressants pour trouver de belles photos, pour aller télécharger des logiciels permettant de faire de l'astronomie sur le PC. Enfin, je laisse aux auditeurs un petit peu curieux le soin d'aller voir ce qui se trouve sur notre site.
Très bien. En tout cas, merci Michel. Voilà, on se souhaitera la bonne année la prochaine fois qu'on se verra. Bon ciel, en tout cas.
Ça faisait un peu loin quand même, fin janvier. C'est pour ça que je me suis permis d'anticiper un tout petit peu.
Oui, mais on a jusqu'à la fin janvier. En tout cas, vraiment merci pour ce beau travail. Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. On va se replonger là dans l'univers du générique qui nous fait rêver, n'est-ce pas, Nicolas?
La Terre, elle brille en fait. Elle est d'un bleu brillant. Elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars, forward to the greatest adventure ever.